Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel.
Associatif, en bref, c'était dans l'optique d'établir et renforcer la communauté autour de toi. La communauté, en tant que musulman, il faut préserver ton identité, il faut renforcer cette identité, il faut être fier, c'est très important, il faut augmenter le niveau de confiance en établissant des communautés, des réseaux pour donner des opportunités aux musulmans et musulmanes autour de toi de se connecter, de réseauter. Et du coup, actuellement en Suisse, après je fais ça depuis les États-Unis, hein, ça a commencé avec...
Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute.
Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Adnan.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Comment vas-tu?
Alhamdulillah, merci. Merci beaucoup pour cette opportunité. J'espère que tout se passe bien pour toi.
Très bien, merci. Écoute, je suis ravi de t'accueillir dans ce podcast en Muslim Makers. On a déjà parlé de ton parcours en off, en dehors de l'interview, et ça m'a impressionné. Je pense que ça impressionnera pas mal de monde.
Jazakallah khair, merci.
Je t'en prie. Pour commencer, je te propose de nous faire une courte présentation. Sans forcément parler en détail de tes activités à côté du travail, juste pour qu'on sache un peu qui tu es, d'où tu viens.
Ok, pas de souci. Bon, c'est toujours une question assez complexe quand les gens me posent ça, en fait. Entre guillemets, mon background. En ce moment, je suis actuellement en Suisse, à Genève. Mais moi, je suis d'origine indienne. Et je grandis à Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Ma famille fait partie d'une diaspora indo-pakistanaise qui est installée en Afrique centrale et orientale. Et on est actuellement du pays qui s'appelle Burundi. Juste à côté de Congo, c'est entre la Tanzanie et le Congo. Et voilà, j'ai grandi à Kinshasa. Et puis, je suis passé un petit moment au Moyen-Orient, à Mascate, Oman. Et à l'âge de 17 ans, je suis allé aux États-Unis pour mes études. Voilà.
Tes parents travaillent dans plusieurs endroits à chaque fois. Un peu comme des expats, hein.
On peut dire ça. Je pense à Kinshasa, la communauté indo-pakistanaise telle qu'est la communauté libanaise et puis tout le monde qui est étrangère, ils sont traités comme des expats. Mais à la base, quand tu vas à l'Afrique de l'Est, genre Kenya, Tanzanie, même Burundi, les Indiens, ils sont connus pour leur diaspora. Donc mes parents, mon père, il travaillait toujours, à un moment donné, il avait son propre business, mais vu qu'il était installé en Afrique, il est né là-bas, il a grandi là-bas, et c'est tout ce qu'il sait, en fait. Donc,
C'est plusieurs générations, en fait, de ta famille qui...
Ouais, c'est mon arrière-grand-père, voilà. Après, il y a des autres communautés indiennes, indo-pakistanaises, dans des autres pays en Afrique, ou même aux îles, vers partout, en fait, qui sont là même depuis plusieurs générations. 8e, 9e, quand tu vas au Uganda, c'est plus ou moins la même chose. Île Maurice, Réunion, ça dépasse quatre générations. Moi, je suis quatrième génération, voilà.
D'accord. À La Réunion, j'ai l'opportunité d'y aller. Mm-hmm. C'est vrai que pour eux, ils partaient en tant que... C'était une zone commerciale, en fait.
Voilà.
Ouais, c'est pareil, c'est pareil pour... c'était en bateau, ils faisaient des allers-retours, certains sont installés.
Ouais, exactement, c'est pareil. Après, il y a plusieurs vagues. Hein. Prenons les Indiens de l'Afrique du Sud... Eux, ils étaient allés à cause des Anglais, en fait. Ils les ont pris pour aller travailler dans des champs et tout. Donc, il y a plusieurs types de vagues. Puis, il y a la vague, c'est ce qu'on appelle la vague commerciale, c'est ce que tu viens de dire. Mon arrière-grand-père, il était commerçant. Voilà. Il a quitté la province, ce qu'on appelle Gujarat, en Inde. C'est l'ethnie qui est connue pour cette diaspora, en fait. Il y a plusieurs types d'ethnies indiennes, ou indo-pakistanaises, on peut dire. Mais les Gujaratis sont connus pour être partout. Commerce.
Et en Réunion. Ouais, j'en prie.
Non, juste en Réunion, les musulmans d'origine indo-pakistanaise en Réunion sont souvent d'ethnie gujarati. Voilà.
Ok, je connais pas trop les ethnies, là. Ça me ferait pas
trop. Il n'y a pas de souci.
Ouais, c'est intéressant d'apprendre ça. Et est-ce que ceux qui partaient, la communauté indo-pakistanaise, est-ce qu'ils partaient en raison du commerce, tu sais s'il y avait quoi comme raison? Est-ce que c'était lié à la situation aussi en Inde ou au Pakistan, si vous voulez partir? Ou c'est juste avec le commerce, ils ont trouvé que c'était pas mal de partir.
C'était en fait pour plusieurs raisons. Après, j'avoue que j'ai toujours essayé de m'approfondir, comprendre mes origines et les raisons pour lesquelles ils sont partis. Mais avec le minimum que je sais, en fait, mon arrière-grand-père voulait juste une meilleure vie, en fait. Ils étaient en Inde, en fait, il y avait les séquelles et les conséquences de tout ce qui était l'époque coloniale, en fait. Et en ces moments, ils n'ont même pas eu l'indépendance. Je pense qu'ils ont quitté vers les années 1920 ou 30,
Donc,
on
il
n'est même
passait
pas
avant
sûr.
l'indépendance.
Il y avait la famine, ils étaient pauvres, voilà.
Ouais. Sous le régime anglais, du coup, qui avait colonisé cette région, l'Inde et le Pakistan et le Bangladesh qui étaient réunis.
Voilà, ouais, exactement. C'était la pauvreté, voilà. En fait, ils avaient tous des passeports britanniques, on peut dire, qui l'ont laissé partir en bateau, en navire, en fait, vers l'Afrique. Il y a des autres qui sont partis dans des autres régions, Jamaïca, Trinidad, Tobago. Eux, ils étaient plus, en fait, on peut dire, pris par les Britanniques, les Anglais, pour aller travailler dans des champs. Pour les commerçants, eux, ils sont partis avec leur propre gré, en fait, pour s'installer. Donc, mon arrière-grand-père, de ce que je sais, il est parti en Tanzanie, il est passé par la Tanzanie pour s'installer au Burundi.
Ouais.
Mais Burundi, c'était une colonie belge à l'époque, c'était pas anglaise. Donc, la raison que nous, on est francophones, parce que voilà, mon père, son grand-père, ils ont tous appris le français à l'école.
Tu as combien de nationalités? Combien de passeports, toi?
C'est assez intéressant, en fait, la famille, on est mélangé, en fait. Vu que mon père, il s'est installé en Afrique centrale, le Congo, après, on pouvait obtenir le passeport congolais. Du coup, la seule différence, c'est ma mère, elle est née en Inde, elle a grandi en Inde, elle est indienne. Donc, on a décidé en tant que famille de prendre la nationalité indienne pour des raisons politiques et de la stabilité, en fait, parce que nous, on a vécu deux guerres civiles au Congo. Et souvent, quand tu es de notre nationalité, tu es souvent protégé par l'ambassade et pas mal d'autres raisons. Et puis, c'était la seule nationalité qui était assez stable, on peut dire, à l'époque. Au contraire, j'avais des cousins, des oncles. Ils ont décidé de ne pas rester en Afrique, de partir au Canada, France, États-Unis, Angleterre. Et puis, voilà, ils ont pu obtenir. Et puis, à l'époque aussi, il y a certains membres des familles qui ont gardé leur passeport britannique, leurs grands-parents, ils ont pris pour quitter l'Inde. Donc, avec ça, tu peux même demander la nationalité anglaise actuelle, en fait. Donc, c'était vraiment. Il y a certains qui ont pris des nationalités tanzaniennes, burundaises. Donc, ça dépend. On n'est pas tous le pareil.
Ouais, c'est vrai qu'on a l'habitude, en France, on a l'habitude d'avoir, on peut avoir plusieurs nationalités, mais certains pays comme
Ouais.
l'Inde, eh ben,
Ouais, on peut
si t'es
pas.
indien, tu peux pas changer. Enfin, il y en a qui le font, mais ils n'en parlent pas, quoi. Tu peux le
Ouais,
garder caché.
exactement.
Ouais. Toi, tu voudrais changer de nationalité si tu pouvais, ou t'es bien avec la nationalité indienne?
Moi, je crois que ça m'a vraiment pas tellement dérangé parce que j'ai toujours grandi dans un mindset, une ouverture culturelle où on était scolarisé. Je passais mon enfance j'étais scolarisé en anglais. Je passais beaucoup de temps aux États-Unis, à Londres, en Angleterre, au Moyen-Orient. Donc, j'ai pas vraiment eu des problèmes d'opportunités, franchement. Je pense que c'est toujours mieux d'avoir quelque chose qui facilite le voyage, mais de là, j'ai pu voyager. J'ai passé beaucoup de pays, en fait. Je suis allé dans trente, quarantaine de pays. Hein. Donc, et puis, moi, je suis en Suisse actuellement, donc je travaille de là. Je n'ai pas vraiment eu un blocage. Je pense qu'à un moment donné, hein, il faut que je. Enfin, il faut, c'est pas il faut, mais pourquoi pas rentrer en Afrique et continuer. Hein. C'est pas nécessairement juste le Congo, mais ça aide. À un moment donné, je voulais même avoir la nationalité congolaise, hein, parce que j'étais vraiment passionné par tout ce qui était développement économique au Congo. Ouais. Malgré le fait qu'il y a trop.
Et la nationalité congolaise, tu peux avoir plusieurs nationalités avec la nationalité congolaise?
Non, c'est un peu pareil comme la nationalité indienne. Non. Congolaise, tu peux pas. Tant que tu es un Congolais, tu peux pas obtenir une autre nationalité. Hein.
D'accord.
Ça peut
Ok.
pas. Mais les gens, ils font. Surtout les Libanais, en fait. Et les Indiens, même. Et les Pakistanais, et puis ils obtiennent une nationalité congolaise. Ça facilite les achats de terrain, le commerce. Après, ils ont leur propre nationalité qu'ils gardent à côté, hein. Mais normalement, quand ils ont leur passeport congolais, ils doivent mettre un nom, un tribut congolais, en fait. Et j'ai des gens qui ont fait ça, en fait.
Oui. Après, bon, on s'écarte un peu du sujet, mais c'est
Pas de
intéressant.
souci. Ouais.
Il me semble que la nationalité indienne, même si tu la quittes, tu as quand même une sorte de carte, ou je sais pas comment ils appellent ça, qui fait que tu restes, en fait, tu restes indien à vie, mais tu perds certains droits comme le droit de vote, ce
Oui,
genre de choses. Ouais.
ou un truc comme ça. Je me suis jamais renseigné. En fait, le truc, c'était le passeport. Pour moi, c'était genre un document. Je n'ai jamais grandi en Inde. Jamais, du tout.
Ouais.
Je me souviens
Tu
que
parles
je
une langue
parle.
indienne, le hindi ou...
Voilà, c'est ça le truc. Je parle, alhamdoulilah, je parle. Contrairement à pas mal d'autres cousins que j'en ai, en fait. Et moi, je parle parce que j'aime les langues. J'avais appris des langues. Donc, je me débrouille bien en Gujarati, Hindi, Urdu, mais j'avais appris, en fait. En grandissant, on a parlé toujours avec. Je parlais toujours avec mon père et ma mère en anglais, français, puis Hindi, Urdu, on a. Ben, Urdu, si tu vas au Pakistan, Hindi, puis tu vas en Inde, plus ou moins au niveau colloquial, c'est la même langue. Hein. Hindoustani, qu'on appelle, moi je parle ça, oui. Avec ma grand-mère, qui est née en Tanzanie, elle est indienne, d'origine indienne. Moi aussi, je parlais avec elle en hindi urdu. Mais voilà, je parle. J'ai fait l'effort, en fait, de m'améliorer, en fait. Mais j'ai un accent. J'ai un accent de ouf. Je me souviens la première fois que je suis allé en Inde, je pense que j'avais 17 ans, ou 16, pardon. 16 ans, je pense. Vraiment, les gens, ils sont commencé à dire, mais tu viens d'où? Parce que t'as un accent.
C'est comme
Je pense que
l'accent
j'étais des
français
États-Unis.
en anglais, tu sais, on
Ouais.
voit direct que t'es pas, voilà,
Ouais,
c'est pas ta première
exactement.
langue.
Ouais. Mais non, je me débute très bien. Et puis, j'hésite jamais à parler, en fait, hindi urdu quand j'ai l'opportunité. Hein. Franchement, avec les oncles de la mosquée, ou des gens de mon équipe, ou dans mon travail, hein, on a pas mal de collègues en Inde. Donc, j'essaie toujours de parler en hindi urdu, même si j'ai un accent. Ça m'empêche pas
Tu parles
de
combien de
parler,
langues?
en fait.
42.
Alhamdoulilah, oui. Non, mais en fait, comme je te dis, j'aime beaucoup apprendre des langues, mais à la base, anglais, français. J'étais scolarisé en anglais, mais français, c'est une langue que j'ai toujours parlé, en fait, à la maison. Je parle français, avec ma femme, on parle français. Donc, anglais, français, hindi, urdu, comme je t'ai dit. Bah, si tu veux traiter hindi, urdu comme une langue, voilà, mais normalement, c'est deux langues. Gujarati, j'aime le bruit aussi, pas mal. Vu que je
Gujarati,
passe
c'est une
beaucoup de
langue
temps.
locale, c'est la langue officielle du Congo.
Non, ça c'est la langue officielle du Congo, c'est français, mais la langue nationale du Congo, il y a quatre. Et en fait, Gujarati, c'est la langue indienne, ethnique, en fait, qu'on parle d'origine. C'est une langue entièrement différente que hindi urdu. On peut dire c'est la même famille, c'est un peu comme espagnol et portugais. Donc, il y a aussi, peut-être entendu parler de punjabi.
Punjabi, oui,
Ouais, ils sont de la même famille, en fait. Donc, c'est comme
Punjabi.
espagnol, italien, espagnol, italien, portugais, c'est la même relation. Donc, je comprends le punjabi, mais je peux pas parler, en fait. Mais donc, Lingala, voilà, c'est la langue nationale du Congo. En fait, vers Kinshasa, la région de Kinshasa et les autres régions, on parle Lingala, qui est aussi parlé à Brazzaville, l'autre Congo. Donc, je me débrouille bien à Lingala, même si on mélange ça avec le français à Kinshasa, parce que voilà, c'est une ville, en fait, tu vois. Donc, c'est pas comme le. Donc, je parle Lingala, et puis j'ai vécu en Espagne, donc j'avais appris l'espagnol. J'avais pris des cours d'arabe et j'étais au Moyen-Orient aussi, donc j'avais appris l'arabe. De là, je me débrouille en arabe. Je dois parler avec ma belle-mère en arabe parce que elle est d'origine, ma femme est d'origine arabe. Et je pense, voilà, les autres langues, voilà, j'essaie d'apprendre au fur et à mesure. En fait, l'allemand, je me débrouille aussi, ça va vite fait parce que j'étais à Zurich avant de venir à Genève, donc j'ai dû apprendre l'allemand. Voilà.
Ah, c'est fascinant. On
Ouais,
reliera ça tout à
Abdullah.
l'heure à la pluralité de tes activités. Peut-être qu'il y a un lien aussi avec.
Ouais, pas de souci, merci.
Est-ce que, bon, tu es originaire d'Inde, tu as vécu au Congo, tu as vécu dans d'autres pays, les États-Unis, Oman, et maintenant la Suisse. Qu'est-ce que ça a fait? Est-ce que tu t'y retrouves au niveau de ton identité par rapport à ça? Quand on te dit tu viens d'où, tu dis quoi, par exemple?
Ah, c'est une très bonne question, franchement. Même mes frères, ils sont dans le même dilemme. Pour faciliter la chose, en fait, au début, hein, c'était toujours une longue réponse. Et puis les gens disaient, ah, ben, voilà, il faut commencer à trouver une façon de raccourcir à la réponse. De là, de nature, je suis extraverti, donc j'aime bien parler avec tout le monde et puis parler de mon parcours. Parce que voilà, ça présente quelque chose de différent. J'aime bien donner un autre point de vue. Parce qu'on est souvent dans ce mindset qu'on aime bien catégoriser des gens, voilà. Si tu es indien, tu viens d'Inde. Non, on peut avoir des indo-pakistanais qui sont de autres pays, en fait. C'est comme un peu des Libanais qui viennent de Côte d'Ivoire, ou des, je sais pas, des Japonais qui viennent de Brésil. Il y a 3, 4 générations de Japonais qui vivent en Brésil. À Sao Paulo, les gens, ils sont pas au courant.
Je pense jusqu'à deux, c'est bon, ça pose des problèmes des fois. L'identité
Oui,
qui
oui.
est jusqu'à deux, mais jusqu'à deux, je pense que c'est assez ça s'explique, tu vois.
Oui.
Indo-congolais, je sais pas, ça
Ouais,
se fait.
j'ai dit ça, en fait, plus ou moins. J'ai dit, je suis indien, mais j'ai vécu au Congo, où j'ai grandi au Congo, où de temps en temps, je dis même, je suis africain ou centrafricain, parce que à la base, on est des Burundis et Rwanda et Tanzanie. Après, je dis, je suis d'origine indienne. Voilà.
Je suis terrien.
Normalement, ouais, c'est ça, nomade. Mais sinon, les gens me demandent, ah, pourquoi t'as pas un accent indien? Et d'où vient la réponse? On n'aime pas, il faut pas toujours catégoriser. Juste parce que t'es indien, il faut, naturellement, les gens pensent que tu vas avoir un accent indien quand tu parles. Et qui n'est pas le cas, en fait. Parce que tu peux trouver des indiens dans les autres pays, en fait. Voilà.
Ouais. Non, c'est cool, c'est génial. Je pense que la pluralité de l'identité, ça permet de se construire,
Ouais.
avoir une construction qui est particulière. C'est intéressant en fait de savoir comment les différentes cultures, à quel point les cultures sont différentes. Et je
Ouais.
pense en termes de tolérance et d'ouverture d'état d'esprit, ça doit être super pratique.
Ouais, tout à fait. Et puis tu essaies d'apprendre de toutes les cultures, en fait, apprendre des langues, des coutumes. Moi, ma femme, elle est d'origine arabe, comme je te dis, elle est maghrébine. Donc il y a pas mal de choses que j'apprends aussi de son côté, hein, la culture tunisienne, franchement. Et puis, alhamdoulillah, tu essaies d'apprendre, tu apprends. Et puis voilà, à la base, c'est enrichissant, en fait. Voilà.
Ok, bah écoute, on va passer à la suite du coup. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton métier, de ce que tu fais dans l'entreprise où tu es, écrire un peu ce que
Ouais.
tu fais. Hein.
Donc, moi, je travaille en tant
Et
que
juste avant, pardon, je te
consultant.
coupe la parole, et aussi ton parcours scolaire, ouais, rapidement.
Ouais, pas de souci, merci. Alors, comme je t'ai dit, quand j'avais 17 ans, je suis allé aux États-Unis pour mes études. Bah, j'avais déjà de la famille là-bas, en fait. Mon côté maternel, comme je t'ai dit, ma mère est d'Inde, en fait. Donc, toute la famille, ils sont, enfin, plus ou moins à un moment donné, ils sont partis à la majorité hein, pour s'installer en Amérique et au Canada. Et du coup, je suis allé aux États-Unis. Hein. J'ai fait c'est ce qu'on appelle un bachelor, parce qu'en France, je sais, vous faites la licence, mais
Ouais, c'est la
c'est 4
licence,
ans
mais
en
en quatre
fait.
ans, ouais.
Ouais, 4 ans, je peux dire, ouais, j'ai fait un bachelor en économie. C'était mes études supérieures en fait. J'étais 5 ans. J'ai eu une bourse en fait. Bah, ils sont pas tout payés, mais voilà, j'ai une bourse. Et à l'époque, j'avais pas trop comment choisir où aller. Hein. C'était un peu pas encore. Comment je peux dire, j'étais pas clair, mais j'ai terminé par choisir l'université en Floride, à Miami. Donc, j'ai passé 5 ans à Miami. Les gens, ils sont souvent étonnés parce qu'ils ont dit, bah, t'as vécu à Miami. On se dit, ouais, j'étais à Miami. Après, comment c'était là-bas? Ils savent pas qu'ils aient, tout ce qui est Miami, et quand on entend de Miami, c'est juste 5% de Miami, en fait, South Beach. L'autre partie, c'est une ville normale. Hein. Donc, j'étais là, je fais mes études en économie. Après ça, à la base, je voulais travailler dans tout ce qui était secteur humanitaire, l'ONU et tout ça. J'ai eu même des stages et des opportunités de faire des stages avec l'ONU, mais j'ai pas pu le faire. Au fur et à mesure, j'ai terminé par travailler dans les ventes, ou le développement commercial. Les deux, en fait, parce que la vente et le développement commercial, c'est pour agrandir le business. Et du coup, j'ai pu avoir un parcours de l'international, où de Miami, je suis allé à Orlando, je suis allé à Londres, puis je suis allé à Dubaï, puis à Majorque en Espagne, et puis à Zurich. Là, en ce moment, actuellement, je suis consultant à Accenture. Donc, je travaille dans la durabilité pour l'instant pour mettre en place une technologie des mesures de l'empreinte carbone.
Ouais.
Bon, j'avais commencé en vente et puis développement commercial. Après ça, je suis passé à analyse commerciale. Et puis, je suis allé dans la gestion de projet, et puis la gestion de projet informatique. Et puis, dès là, voilà, tu obtiens un nombre de compétences pour te dire, bah, je peux devenir consultant.
Ouais. D'accord. Tu as quel âge? Je sais pas si tu l'avais dit
En ce
ou...
moment, non, je l'ai pas dit, j'ai 28.
28. Ah, ok, comme moi. Même génération.
Ouais, attends.
Ouais. Donc tu es, mashallah, tu es mashallah, très très active dans le monde de l'humanitaire et ouais, c'est l'humanitaire en fait.
Ouais,
Hein. Non pas
associatif,
forcément
ouais.
l'humanitaire, associatif aussi, un peu d'humanitaire et un peu d'associatif. Est-ce que tu peux nous décrire les différentes activités par groupe d'activités? Parce que ça va, c'est très long, moi, je préviens les auditeurs.
Ouais, pas de souci,
sans
hein.
forcément entrer trop trop dans le détail, mais juste décrire un peu les implications majeures en fait.
Alors, mes implications, je divise ça en deux. Comme tu as bien dit, j'ai tout ce qui est humanitaire à côté, puis tout ce qui est associatif. Une des raisons, j'ai divisé ça en deux, c'était plutôt parce qu'il faut distinguer. Hein, associative, je vise, en fait, je regarde ça plus un truc, quelque chose de local, en fait. plus pour bâtir une communauté. Et puis humanitaire, c'est plutôt pour l'aide à l'étrangère, pour avoir un impact sur le long terme dans des communautés, puis des gens qui sont démunis et tout ça.
Ouais.
Donc, comme je t'ai dit, à la base, je voulais toujours travailler dans l'humanitaire, mais j'ai pas pu. Je suis allé dans tout ce qui était corporate, secteur privé. Donc, je voulais toujours garder un côté où j'étais en train de faire des projets, réaliser des projets, surtout en Afrique. Donc, je commençais depuis un jeune âge. Hein. Déjà, à Kinshasa, on faisait pas mal d'activités. On partait dans des orphelinats et tout. Mais après, quand j'étais aux États-Unis, je suis allé au Burkina Faso pour 2 mois pour travailler avec USAID, genre le développement international, l'Agence de développement international des États-Unis, pour tout ce qui était assainissement. Et après, là, ça m'a un peu déclenché. Donc, en ces moments, on a terminé par faire pas mal de l'activité au Sénégal, Guinée, Inch'Allah, dans une semaine. Bon, dans quelques jours, je pars au Ghana pour établir une bourse pour des femmes, pour qu'ils aillent à l'université. On a cofondé une ONG qui facilite l'accès à l'eau potable au Tchad. Ça s'appelle Water for Tchad. Donc, j'étais à N'Djamena, au Tchad aussi. J'étais au Guatemala aussi pour construire une école. Et puis, à un moment donné, vu qu'on avait pas mal de projets, on a décidé de cofonder un type d'incubateur social ou un accélérateur, on peut dire. C'est une ONG à la base, mais ça, il s'associe en fait avec des autres ONG locales qui sont déjà là dans des pays et pour établir plusieurs types de projets. Et
D'accord.
ça s'appelle Team Up. C'est
Ouais.
avec des collègues et des amis des États-Unis. Donc ça, c'est tout ce qui est humanitaire. Ça continue. Je cherche et je pense qu'il faut toujours essayer de motiver tout le monde, de chercher un projet. Pas nécessairement développer un truc. Si tu peux être bénévole, c'est assez. Et j'essaie au moins de prendre une semaine chaque année pour aller faire l'impact. Et puis, à la base, je suis, quand je travaille, à côté, je commence à développer ce genre de projet. Donc,
Ouais.
je pense que j'ai un peu trop parlé par rapport à tout ce qui était humanitaire. Il y a aussi le parcours associatif qui reste. Associatif, en bref, c'était dans l'optique de établir et renforcer la communauté autour de toi. La communauté, en tant que musulman, il faut préserver ton identité. Il faut renforcer cette identité. Il faut être fier. C'est très important. Il faut augmenter le niveau de confiance en établissant des communautés, des réseaux pour donner des opportunités aux musulmans et musulmanes autour de toi de se connecter, de réseauter. Et du coup, actuellement en Suisse, après, je fais ça depuis les États-Unis. Hein, ça a commencé avec l'Association universitaire d'étudiants musulmans, ce qu'on appelle MSA, Muslim Student Association, en anglais, l'EMF en France, et on a nos versions en Suisse aussi. J'avais commencé ça depuis, et puis ça m'a donné un peu l'ouverture, la force ou les compétences pour commencer à faire ça hors université, dans mon parcours hors universitaire en fait. Donc actuellement en Suisse, je fais partie de l'Association professionnelle des musulmans en Suisse. Donc on a établi un moyen pour des professionnels musulmans et musulmanes de, voilà, pour qu'ils puissent se rencontrer, se réseauter. On a aussi développé un programme de mentorat pour eux. À part ça, il y a aussi la Fondation Zakat qui vise à je fais partie de l'équipe tout ce qui est pour l'implémentation mettre en œuvre une infrastructure technologique. Je fais partie de la Fondation Zakat pour propager en fait plutôt je peux dire l'aide à la communauté musulmane qui sont en besoin en Suisse même les gens sont pas au courant. Il y a aussi Swiss Muslim Hikes, c'est un autre concept qu'on a co-développé, on peut dire, je suis cofondateur. Ça permet des gens de faire des randos qui fait partie de la culture suisse et adorer Allah vis-à-vis sa création. Alhamdoulilah, c'est un très beau pays, hein, il y a les montagnes partout. Tu vois, dans le canton de Valais, quand on Fribourg, quand on Tessin, franchement, tu peux pas, il y a pas assez de routes, assez de vues en fait. Et puis on utilise ça en fait comme un moyen pour réunir des musulmans, faire la salat dans des montagnes, autour des montagnes avec tout le monde, là pour faciliter l'échange et puis voilà, normaliser hein, plutôt la pratique islamique. Voilà.
Oui, je vous ai dit que ça serait long, les auditeurs. Machallah, tu es vraiment très actif et tes projets, alhamdoulilah, j'ai l'impression que tu les mènes à bout. C'est souvent quelque chose qui est très difficile à faire et tu les emmènes plusieurs à bout, c'est encore plus difficile. Comment est-ce que tu fais?
Comment est-ce que je fais? Alhamdoulilah, Première chose, c'est la baraka d'Allah qui facilite ton emploi du temps, en fait. La deuxième chose, c'est savoir comment déléguer et pas mettre tout sur toi. Tu peux être impliqué dans pas mal de choses, mais il faut pas essayer de tout faire. Donc, si tu t'occupes de, tu fais chaque tâche dans chaque assos, tu vas terminer par, voilà, tu vas avoir un burn-out. Tu pourras plus, en fait, c'est pas physiquement possible d'être tellement impliqué. Il faut savoir comment collaborer et travailler dans une équipe. Le teamwork, comme on dit souvent dans le monde anglo-saxon, teamwork, teamwork, c'est très important. Il faut avoir une équipe, il faut savoir comment déléguer, il faut aussi coacher, entraîner des nouveaux. Si tu vois quelqu'un qui a du potentiel, qui veut travailler, qui veut faire partie dans le monde associatif, mais il a un manque de confiance, elle a un manque de confiance, elle n'est pas encore, elle n'a pas cette expérience. Au lieu de rejeter et dire, bah non, elle n'est pas encore prête, il n'est pas encore prêt. Non, on va commencer à affiner, raffiner, en fait, et pour que tu me remplaces ou je puisse te déléguer des choses, même si tu vas faire des erreurs. Mais c'est très important de faire ça. Et alhamdoulilah, de temps en temps, je peux être très, très honnête, je peux pas tout faire. Juste par exemple, pour la Fondation Zakat, ça fait un petit moment que je n'ai pas pu tellement contribuer. Mais alhamdoulilah, je suis toujours en contact avec l'équipe. Qu'est-ce qui se passe, je suis au courant, même si je ne peux pas tout faire. Donc, il faut déjà accepter que tu peux pas tout faire et savoir comment collaborer et communiquer avec les gens pour déléguer les tâches et puis aussi diviser les responsabilités.
Écoute, c'est top. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Qu'est-ce qui t'anime dans ton application? Avant ça, je voulais poser une question, c'est pourquoi est-ce que tu es impliqué dans tant de projets qui sont même localisés à différents endroits? Et ouais, c'est aussi pourquoi est-ce que tu fais tout ça?
Ah, c'est une très bonne question. Je pense que c'est un moyen, en fait, chacun de soi, en fait, on a tous nos moyens de, comment je peux dire, en fait, pour servir la communauté, plutôt. On a tous nos moyens. Je peux avoir un frère ou une sœur qui est pas mal éduquée dans la lecture du Coran. Donc, elle termine par donner des cours à la mosquée. Il y a quelqu'un d'autre qui a fait 15, 10 ans d'études en islam, en médecine ou en Égypte. Puis maintenant, il va commencer à apprendre des gens, à enseigner de l'affaire. Pour moi, c'était avec mes compétences que j'ai pu obtenir. Alhamdoulilah, cette facilité de déléguer ou à établir des associations, ou voilà, vraiment avoir un plan, un objectif bien concret pour voilà, avoir un très bon taux de succès. Je me suis trouvé dedans. J'ai dit, bon, écoute, si c'est quelque chose que je peux faire bien, alors pourquoi pas devenir, entre guillemets, un bâtisseur de communauté, où je peux commencer à faciliter les liens, des projets. Alhamdoulilah, et Allah m'a facilité.
Est-ce qu'il y a des sujets qui t'animent en particulier ou bah, quand tu es touché par un sujet, bah, tu veux t'impliquer dedans? Est-ce que tu as une stratégie, on va dire, derrière où tu sais exactement les sujets qui t'intéressent et où tu veux avoir un impact? Ou bien c'est un peu des deux?
Alors, ouais, c'est le deux, en fait. De temps en temps, tu peux pas tout planifier. Il faut être spontané de temps en temps. C'est ce qui est très important. Mais je reste consultant. Il faut avoir une stratégie. Je peux pas juste impliquer pour dire maintenant, je vais faire telle chose, je vais organiser tel événement. Il faut regarder sur le long terme. C'est quoi la vision des choses? Qu'est-ce que on aimerait établir? Surtout avec par exemple, le programme de mentorat, donner l'opportunité aux jeunes étudiants, musulmans, puis des jeunes musulmans qui n'ont pas assez d'expérience pour être matchés avec des musulmans qui sont, voilà, qui ont assez d'expérience. Ça démontre une vision sur le long terme. Et aussi la continuité, en fait. Comment assurer que... Parce que, en fait, le but, c'était pas rester dans une association ou une ONG pour 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et ça, c'est le problème souvent dans les communautés musulmanes, qu'on a le président qui est là depuis 10 ans, 8 ans. De la mosquée ou de cette telle association. Le but, c'est en fait d'apprendre la nouvelle génération de prendre le relais. Et pour ça, il faut avoir une vision, une stratégie. Et il faut apprendre de tes erreurs. Il faut avoir un budget. Il faut savoir comment investir pour gagner parce que ça coûte d'argent, pas juste le temps. Donc, une stratégie est très, très importante.
Est-ce que tu arrives à... Est-ce que parfois tu as des moments de mou? Est-ce que tu trouves que des fois c'est vraiment compliqué? Tu as envie d'arrêter, peut-être, je sais pas, certains projets? Ou est-ce que tu as réussi à t'organiser d'une manière à ce que, voilà, tu évites ça, tu arrives à éviter ça?
Donc, j'aime pas du tout en fait abandonner un projet. Si je peux pas continuer dans ça, j'essaie au max de déléguer ça à quelqu'un d'autre et puis je reste impliqué. Ou de temps en temps, je prends une pause. C'est la communication très importante. Si quelque chose est abandonné, en fait, j'aime pas dire ce mot. En fait, c'est plutôt clôturer le projet en disant que voilà, ça n'a pas pu marcher. Je me souviens qu'on avait un projet qu'on voulait faire au Yémen. On voulait aller à Sanaa pour aller dans des écoles, puis éduquer hein, les enseignants pour améliorer leur cursus scolaire, surtout dans tout ce qui était cursus anglo-saxon, dans des écoles
Ouais.
internationales humaines. Et ça n'a pas pu marcher, en fait. On était dans des discussions pour des mois et des mois. Et du coup, tu termines ça par clôturer en disant que voilà, ça ne peut pas marcher, alhamdoulillah, on va essayer une autre fois, ou je vais viser des autres projets. Mais abandonner, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire, en fait.
Ouais.
Ce n'est pas une bonne qualité de leadership. Après, c'est vrai que je sais pas, il peut se faire en fait qu'à un moment donné, hein, j'ai pu abandonner quelque chose, mais j'avais pas assez d'expérience. Et puis, on apprend de nos erreurs en fait. Donc, en ces moments, le principe n'est pas abandonner un projet. Et si tu peux pas continuer, tu essaies de revenir. Parce que ce problème-là, il y a toujours des autres associations, des autres organisations qui sollicitent, qui veulent toujours faire un type de partenariat. Et tu peux pas dire oui à tout le monde. Donc,
Ouais.
il faut juste savoir comment clôturer une chose d'une manière efficace. Comment dire que ça peut pas se continuer, il y a pas voilà une raison pour laquelle, ou si ça peut pas même se débuter en fait, voilà, on faut être très clair, faut pas passer par quatre chemins. Je suis très cash en fait, avec très direct, voilà, ça peut pas marcher, voilà, est-ce qu'on a, on a, on a, on va avoir du progrès ou non, ça se voit pas, est-ce que ça sert à quelque chose que j'investisse mon temps, toi aussi ton argent, non. Donc la question est très très importante, faut être très transparente.
Ouais. Comment est-ce que tu fais pour gérer ton temps entre ton travail et les différentes activités? Comment est-ce que tu organises un peu tes... Est-ce que tu as un planning vraiment bien organisé ou est-ce que tu es toujours disponible pour répondre à certaines choses? J'imagine qu'il y a beaucoup aussi de projets qui sont faits à distance en
Oui.
ligne, tu vois. Comment est-ce que tu gères ça, la différence de fuseau horaire, etc.?
Subhanallah, j'aurais aimé dire que j'ai un planning parfait. Hein. Genre, je me réveille le matin, je regarde telle chose, mais à la base, subhanallah, pour être honnête, c'est spontané. Quand je dis spontané, hein, je ne peux pas tout planifier. J'ai accepté, en fait, que tu ne peux pas tout planifier. Mais quand il
Ouais.
s'agit d'investir le temps, alors, alhamdoulillah, hein, grâce à tout ce qui est des distances, télétravail, ça m'a facilité beaucoup, en fait. Et puis, on a des réunions, en fait. En fait, il faut toujours avoir des réunions et il faut toujours maintenir entretenir un lien de communication récurrent, donc fréquent. Si c'est la ONG au Tchad qu'on a cofondée, je suis toujours en contact avec le cofondateur, le président actuel, je suis en contact avec lui, par exemple. Ou si il s'agit de l'incubateur, l'accélérateur d'ONG qu'on a aussi cofondé, on fait des réunions mensuelles ou hebdomadaires. Après, tout ce qui demande mission sur terrain, je planifie ça à l'avance. Donc, comme le projet de Ghana, inchallah, si Allah me permet, je vais aller à Accra. Ça, c'était planifié depuis 6 mois. Ça, c'est déjà planifié. Après, tout ce qui est présentiel en Suisse, genre si on a une soirée de réseautage avec l'Association professionnelle des musulmans, où
Oui.
on a une rando prévue avec Swiss Muslim Rights, où on a un atelier prévu avec la Fondation Zakat, où j'ai une réunion prévue avec l'association universitaire d'étudiants musulmans à Genève ou à Lausanne ou à Zurich, peu importe, il y a plusieurs. Tout est prévu à l'avance. Il peut se faire aussi que la personne responsable est dispo tout de suite, donc je fais un appel. Mais quand je m'implique pour des tâches, donc tout ce qui est stratégie, tout ce qui est en fait la documentation, genre travailler sur Confluence, sur Jira, parce qu'il faut utiliser en fait ce type d'outils. On est un peu toujours à l'ancienne école, qu'on fait toutes les choses, on écrit des notes et tout, mais par exemple, il faut utiliser des outils, des gestions de projet. Ça prend du temps, en fait, quand il s'agit de faire un budget sur Excel, ou voilà, faire des notes ou archiver des documents, écrire pas mal de choses. Là, il faut consacrer, je pense, 2, 3 heures, et puis je planifie ça à l'avance, puis j'enchaîne tout de suite. On termine.
Oui. Qu'est-ce que tu as pu voir comme mauvaise pratique et comme bonne pratique dans la gestion d'une association, d'un projet, des choses qui sont des choses à éviter, des choses qui facilitent?
Pas de souci. Très bonne question. Et puis, Wafi, par le cas. Alors, quand il s'agit des bonnes pratiques, je dis toujours que quand tu es impliqué à l'associatif ou même humanitaire, il faut traiter ça comme tu travailles pour une grande boîte. Actuellement, Accenture, c'est une boîte grande. Je peux dire, on dépasse 700 000 employés. Donc, on a des processus. C'est très important dans des assos, même si c'est une assos de 5 personnes dans le comité et vous avez des événements qui dépassent pas une trentaine, c'est pas grave. Il faut établir des processus, une manière de faire des choses. Il faut tout déjà documenter. Très important. Ça commence avec tout ce qui est en fait le statut. Bon, ça c'est la base. Hein. Et puis c'est important de déjà prenons l'exemple de des Suisse Muslim Hikes. On fait des randons. Tout le monde va dire bah ah, vous faites que de randons. C'est quoi ça en fait? Ou, non, ça nécessite du planning. Hein. C'est logistique. Hein. C'est coordonné avec une cinquantaine, 60 personnes qui viennent à une rando. On a déjà un type de compte de conduite, comment se comporter. Ça, c'est important à établir. Des tâches qui doivent être bien décrites. Je vais essayer d'être organisé, mais la catégorie dont je parle, c'est la documentation. Parce qu'en fait, il faut toujours viser, c'est comme une boîte. Tu es là dans ton équipe pour 2-3 ans, puis tu vas être promu. Quelqu'un d'autre va faire ton boulot. C'est ça, non? Tu vas pas être dans la même position pour 10 ans dans ton travail, normalement. Quand il s'agit de notre génération, alhamdulillah, on aime bien avoir cette promotion, changer. On a cette culture de maintenant company jumping, quand on dit que pour un meilleur salaire, on part dans une autre boîte. Et vis-à-vis à ton parcours aussi, alhamdulillah, la boîte où tu travailles, tu n'es pas resté dans la même position.
Ouais.
Tu as commencé en tant que débutant, stagiaire, voilà, et tu as pu devenir head of data maintenant, n'est-ce pas? À un moment donné, ça prend du temps. Donc, c'est plus ou moins la même chose pour des assos. Il faut déjà comprendre que tu ne seras pas là demain. Et ça, c'est le problème aujourd'hui. On a des présidents, des vice-présidents, des gens qui sont là depuis plus de 3 ans parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des remplaçants. Ou ils sont un peu comme ce qu'on aime dire comme les dictateurs en Afrique, les présidents en Afrique qui essaient de chercher un troisième mandat pour rester en pouvoir. Et ouais. Malheureusement, c'est le cas aussi dans le communauté musulmane. Donc, les bonnes pratiques, c'est toujours tout documenter, avoir des processus délégués, bien diviser les tâches, pas essayer de tout faire, responsabiliser, dynamiser, pas faire la même chose, pas copier, puis toujours essayer de travailler avec des autres assos. Pas juste être dans ta propre bulle, entre dire, mais on fait ça, on n'est que nous. Hein. Non, il faut reconnaître qu'il y a des autres assos parce qu'il y a plusieurs manières d'allumer un feu, en fait, comme on peut dire. Donc, il y a ça.
Puis les mauvaises pratiques. Ce genre de choses.
Exactement, merci. Et les mauvaises pratiques, c'est tout ce qui est contraire de tout ce que je viens de dire, l'opposé. Donc, pas faire tout ce que je viens de dire. Voilà. Rester dans aucun processus, en fait. Il y a un groupe WhatsApp. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de tâche, il n'y a pas de rôle. Vraiment, c'est quelqu'un qui est dispo pour faire ça, voilà. Et puis, je peux comprendre, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire, donc ils ont besoin d'avoir un type d'intervention où les gens viennent les aider et puis être ouverts à ça. Nous, je dis plusieurs fois qu'il faut avoir des gens qui viennent auditer ou des autres assos ou des gens qui ont assez d'expérience pour venir et puis remettre en question ta manière de travailler. C'est très important. Les boîtes, ils font ça. Ils ont les audits, en fait. Pourquoi tu as EY ou KPMG ou Deloitte qui vient un peu dire, bah, écoute, tu as fait telle chose mal, telle chose. C'est important aussi dans les assos, dans les mosquées, pour qu'ils aient ça. Mais on est en... La continuité, ce concept n'existe pas, en fait. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ce n'est pas assez propagé, ce n'est pas assez répandu pour qu'on dise, bah, demain, il y a quelqu'un qui va venir. Il doit tout accepter ce qu'on fait. Sinon, il ne fait pas partie de l'assos. Non, il y a une autre manière de faire des choses.
Voilà. Ouais. Ouais, c'est super intéressant. J'aimerais qu'on parle au moins de deux de tes implications. Tu en as énormément, mais un côté humanitaire et une asso locale en Suisse, si on peut développer un petit peu. Donc, par rapport au projet en Suisse, donc, tu as parlé d'événements de networking et de randonnée. C'est le même événement ou c'est pareil ça?
Ouais. Non, c'est deux associations différentes. Donc, l'association professionnelle des musulmans, c'est l'APM, ou Muslim Schäferverband en allemand. Et puis, il y a Swiss Muslim Hikes qui est des randos. Ce sont deux associations différentes.
Ouais. Je mettrai les liens de toute façon dans la description, Inch'Allah, pour que tu retrouves les informations.
Pas de souci.
Mais au niveau des randos, pourquoi est-ce que vous avez créé les randos? Tu m'en parlais un petit peu la dernière fois.
Oui,
oui. Qu'est-ce que ça a chez les personnes? Qu'est-ce qui attire, etc. Est-ce que tu peux développer?
Ouais, pas de souci. Merci. Alors, quand je suis venu en Suisse il y a 3 ans, je vis qu'il y a des associations qui existent déjà. Ils sont entrés déjà établir une communauté locale, soit des cours, soit le réseautage. Et je vis en fait l'élément de ce que je peux dire en fait que la Suisse est très contrôlable. Donc si tu es de Zurich en fait, t'as grandi là-bas, c'est ta ville à toi. Donc t'es impliqué dans tout ce qui est à Zurich. C'est par ici à Genève. Hein. Souvent là, j'ai rencontré des Genevois qui me disent ah tu pars à Lausanne qui est à 40 minutes de Genève en fait, c'est dans un autre canton, le canton de Vaud. Et ouais. C'est trop loin. C'est 40 minutes. Je dis aux gens, en fait, ah là, j'étais à Zurich avant, j'ai vécu à Zurich pour 2 ans. Ah, Zurich, mais c'est quand même loin. Je dis, non, c'est dans le même pays. Ouais, c'est 3 heures de route, hein, mais ça va. Donc, il y a une mentalité très cantonale. Donc, ouais. Qu'est-ce que c'était quoi, en fait? En tant que consultant, tu essaies de regarder tout ce qui est le problème en soi, en fait, racine, en fait, la racine de choses. Et tu regardes que on est très cantonal de comment on marche. C'est difficile de réunir la communauté au niveau national, on peut dire. Et on peut pas. Il faut accepter qu'on peut pas parce qu'il y a une différence linguistique. Il y a l'allemand, il y a l'italien en Suisse, il y a le français. Donc, il faut toujours essayer de réunir les musulmans d'une manière ou l'autre. Et puis aussi normaliser certaines choses qui sont pas assez répandues ou propagées. Surtout, le fait de pratiquer la religion sans peur ou avec un bon niveau de confiance. C'est très important d'exprimer soit en tant que musulman, je suis musulman, je suis fier d'être musulman, et aussi faciliter les liens d'amitié pour des autres musulmans qui peut-être qui sont en besoin.
Ouais.
Donc j'ai tout de suite reconnu en fait, j'ai capté que les randonnées en fait ça fait partie de la culture suisse. Subhanallah, j'ai commencé à faire des randos avec des amis, c'est quelque chose que tu fais en fait. Puis on va aller prendre un verre, on va boire un café, on va faire une rando. C'est quelque chose qui est pas, c'est pas autant fréquent, mais voilà, faire une rando. Il y a des assos, il y a des mosquées, il y a les écoles primaires, et les collèges, les gymnases, ils font tous des randos pour les étudiants. C'est la culture suisse. T'es là dans à la montagne et tu vois une grand-mère de 80 ans ou 70 ans qui est là, elle est en train de marcher sans problème, alhamdoulilah, physique top. Et t'es là en train d'essouffler, t'arrives pas. Et tu te dis, bah écoute, il faut encourager déjà le sport, c'est très important. Bah, je suis pas le meilleur exemple de ça, mais il faut encourager le sport. Et je dis, écoute, si nous, on planifie une rando quelque part en Suisse, probablement, peu importe le canton où tu viens, tu vas essayer de venir. Donc, on a vu avec un partenariat avec une autre association universitaire d'étudiants musulmans à Berne, en fait. Ils ont fait une rando. Du coup, on a commencé à dire à tout le monde, bah, venez, on va faire une rando avec telle assoce de musulmans. Puis, ça permet à reconnaître l'assoce universitaire, des étudiants musulmans, qu'est-ce qu'ils font à Berne et tout ça. Et puis, du coup, à un moment donné, il y avait une trentaine ou quarantaine. Et puis, on a réalisé, bon, on s'est rendu compte que c'est un concept qui cartonne, hein. Tu dis rando et les gens, ils viennent. Bah, la majorité. Même les gens qui sont pas assez motivés avec leurs amis, ils viennent. Donc, on a dit, bah, écoute, pour mettre des choses en place, parce que l'association universitaire, les gens là-bas, ils peuvent pas toujours faire de rando. C'est une association universitaire. Ils doivent se focaliser sur des autres choses comme une salle de prière ou faciliter des choses pour les étudiants au campus ou tout ça. Mais on dit, on va établir une association pour faire que de rando et réunir des musulmans et normaliser parce qu'on était à la rando et c'est le temps de salat. On va faire quand on va rentrer. Oui, en tant que voyageur, tu peux raccourcir, tu peux prier, mais et c'est le temps de salade, il faut prier. On a cherché un endroit, un petit champ où voilà, on s'est posé, on a fait nos ablutions avec l'eau naturelle, alhamdoulilah, et puis on a prié. Et puis on a pris l'opportunité de faire un petit dars en leçon après. Et les gens, ils étaient pas habitués avec ce concept. Ils ont dit, mais c'est quoi ça? Ça, on fait ça à la mosquée. Mais un petit rappel, en plein milieu de la création d'un droit, ce moment-là, ça motive. Et puis...
la religion, c'est à la maison.
Ouais, exactement. La religion, c'est à la maison. Mais on a eu des Français qui viennent, il y a pas mal de Français qui travaillent en Suisse. Mais vous priez comme ça, sans problème. J'ai dit, alhamdoulilah, on n'a pas des limites, des problèmes en Suisse qui nous empêchent, alhamdoulilah.
Même en France, c'est tout à fait légal de prier partout. Hein.
Oui, exactement, les gens ne sont pas au courant, tu vois.
Ouais. Et puis, il y a des conversations.
Voilà, c'est dans la nature. Il y a les conversations qui se déclenchent. Ah, tu viens d'où? Ah, moi, je suis de canton de Zurich. Je suis à Zurich. Ah, moi, je suis de Genève. Mais jamais dans leur life, dans leur vie, ils pouvaient même avoir cette opportunité de se rencontrer, même s'ils sont dans le même pays. C'est comme ça, la Suisse, en fait. C'est tellement cantonal. Ah, moi, je suis de tel quartier. Je suis de là-bas. Ah, oh, t'es tunisien aussi. Ah, ouais, t'es afghan aussi. Voilà. C'est incroyable parce que ça a cartonné. On a déjà dépassé 50 randos, je pense, dans 2 ans. La page Instagram a explosé. Chaque rando, on a dû mettre des limites parce on dépasse quarantaine, cinquantaine. On n'arrive pas à tout. Et puis les gens demandent pourquoi je ne peux pas venir. Je dis, bah, écoute, on est plein. Et dans la raison qu'on a commencé à mettre en œuvre des processus pour bien contrôler, tu vois, des codes pour mieux se comporter. Voilà, parce qu'on n'est pas que d'hommes, il y a des femmes aussi, la mixité. C'est très important de se comporter, donner un bon exemple, établir un amir ou un amira qui est là dans la rando, vraiment des choses
Une personne
qu'on
en
retient
charge
de
de la
là.
sortie, quoi, qui donne la
Voilà,
direction.
voilà. Exactement. Puis tout ce qui en dérive de la sunna, est plus important aussi de donner de la chance pas juste, c'est pas juste le comité qui est en contrôle. De temps en temps, on propose des nouveaux, des gens qui ont, peut-être t'as déjà fait 5-6 randos avec nous. À un moment donné, on te dit, bah, écoute, si tu as envie de diriger le rando, viens avec une route, un plan. Et il dit, moi, je suis du canton de Bâle. J'ai grandi à Bâle, je connais une route là-bas. OK, va faire la rando, viens, reviens vers nous. Et puis voilà, si tu as bien compris la route, on fait ça avec 50 personnes ou 40 personnes. Et puis on essaie de faire des darses ou des rappels avec des gens qui sont instruits, qui sont déjà actifs dans la communauté, dans des mosquées, pas juste peu importe qui, pour faire un rappel. Voilà.
Non, machin, là, c'est bien, je trouve. C'est des choses qu'on peut faire tout seul, mais d'être entouré de musulmans comme ça crée du lien, ça donne
On
envie.
est, ouais. On a des jeunes garçons, des filles, on a fait des randos des familles, on a des oncles, des tantes, comme je veux dire, des tatas qui sont venus avec nous. Tout le monde, chaque âge. En fait, normalement, ça vise notre génération plus, des gens entre 18 ans et 40, normalement. Mais on a eu des gens qui sont, je pense, j'avais une mère elle est venue faire, pendant la neige, on est parti dans le canton de Valais pour les raquettes, en fait. À la neige, en fait, elle est venue faire ça avec nous, hein. Sans problème, là. Donc, après, elle est partie après quand c'était devenu un peu trop compliqué. C'est technique assez de marcher avec les raquettes et tout ça. Mais voilà, ça a cartonné, subhanallah. Alhamdoulilah, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a facilité, ça a normalisé. Il y a beaucoup de gens qui sont entrés dans la pratique d'islam parce qu'ils sont pas. Oh, moi, j'ai grandi dans un village en Suisse. J'ai pas vraiment eu des amis musulmans autour de moi. Et vous êtes là en train de prier normalement. Je me souviens, il y a une sœur qui a porté le voile, ou des sœurs qui ont porté le voile, ils ont trouvé des autres amis, ils ont établi des réseaux entre eux, je peux dire. Je peux
Crée des
dire
amitiés.
que, ouais, parce que juste pour finir, en fait, c'est une manière d'établir des liens. C'est du réseautage qui n'est pas direct, c'est nonchalant. Ça permet de créer un moyen une zone de confort. T'es là, t'es en train de marcher. C'est pas vraiment, t'es là pour parler de toi. T'es en train de marcher, franchement. Et là, naturellement, tu t'ouvres, voilà, tu fais des amis, naturellement. C'est pas comme une soirée de réseautage. J'encourage les soirées de réseautage professionnel. C'est très important de parler de ton métier, de ton parcours. Mais pas forcément tout le monde est à l'aise. Mais dans des randos, souvent, il suffit que, voilà, tu penses pas à ça, tu es en train de marcher.
Il y a souvent plus d'intérêt dans le réseautage organisé, on va dire. Et
Voilà,
plus d'intérêt,
tout
les
à fait.
personnes viennent pour chercher. Enfin, c'est difficile de sortir de ça, en fait, rapport à ce qui... Et alors que si tu viens pour une randonnée, bah, tu peux dire je viens pour la randonnée, et puis s'il y a quelque chose, voilà, très bien, s'il n'y a pas, tant pis, quoi.
C'est quelque chose, exactement, exactement. Il y a des frères ou des sœurs qui ont pu trouver un travail, un stage, du mentoring, un mentor grâce à quelqu'un qu'ils ont rencontré à la rando. Et si ça termine par faciliter un mariage aussi, alhamdoulilah,
Ça,
bidnillah, c'est.
je pensais à ça en plus, juste avoir facilité pas
On
mal de
laisse ça dans
mariages.
on laisse dans le main d'Allah. On n'est pas tout rentré des. En tant qu'ASOS, on parle pas trop de ça, mais si ça facilite, ça facilite. Tant qu'on fait ça de la bonne manière, on implique le tuteur et tout ça, alhamdoulillah. Donc voilà, pourquoi pas. Ça donne une chance aux musulmans, aux jeunes musulmans. C'est très important, ça, dans le comité. Faut reconnaître.
Non, c'est clair. Ok, très bien. Bah, écoute, parlons un peu de la deuxième structure sur laquelle je voulais qu'on parle, plutôt dans l'humanitaire. Donc, je ne sais plus c'est quoi la structure, mais tu me parlais récemment, enfin, c'est par rapport à ce voyage qui va se passer, je crois. Non, ouais, c'est peut-être celui-là ou autre chose. Vous avez un projet, en fait, pour aider les femmes à pouvoir se déplacer, aller travailler, aller à l'école.
Oui, exactement. Donc team up, en anglais, c'est pour voilà, c'est collaborer, réunir pour une action concrète. On a établi team up il y a 3 ans avec, je peux dire mes coéquipiers, mes collègues, mes amis. Ils sont tous, on était ensemble depuis les États-Unis. On était, bah, certains. On a réalisé pas mal de projets ensemble. On est parti au Sénégal pour aller construire une école, et puis on était en Grèce pour aider des réfugiés là-bas. Donc à un moment donné, on s'est dit, bah, il faut avoir notre propre asso, notre propre organisation pour englober toutes nos activités. Surtout parce qu'on fait des partenariats avec des ONG locales, en fait, dans la région, dans des pays, en fait. Donc ça a
Ouais.
permis de et puis en là, on avait un bon réseau pour pouvoir récolter. On a établi un site pour une cagnotte en ligne, un peu comme ce qu'on a avec Launch Good Litchi, tout ça. C'est toujours un
Ouais.
site à nous. Et du coup, avec notre réseau, et puis on a pu financer pas mal de projets. On a commencé avec le Tchad, parce qu'on avait déjà travaillé avec Water for Tchad, notre ONG que j'avais cofondée.
Ouais.
Et du coup, avec tout ce qu'on fera au Ghana, Inch'Allah, c'est pour établir une bourse en partenariat avec une fondation qui s'appelle Asrochella. Au Ghana, qui travaille avec tout ce qui est pour, je peux dire, dynamiser, responsabiliser des femmes qui n'ont pas l'accès à l'éducation. On a un autre projet prévu, Inch'Allah, si ça marche, au Ouganda. On travaille avec une autre ONG là-bas. Encore, on travaille qu'avec des ONG locales. On essaie de travailler avec des ONG locales parce qu'ils ont déjà un type d'empreinte qui est déjà là dans le pays. Donc, au Ouganda, il y a une association qui s'appelle FemLead, en fait, qui fabrique, en fait, ou qui travaille avec des partenaires qui fabriquent des serviettes hygiéniques avec des feuilles de
C'est à
banane.
celle-là que je pense que je faisais
Ouais.
référence.
Ghana, c'est plutôt pour la bourse. Ouganda, c'est plutôt pour ces serviettes hygiéniques, en fait, parce que qu'est-ce qui se passe, en fait? Les femmes, voilà, très ouvertes, quand elles sont en règle, normalement, à cause des raisons culturelles, voilà, elles n'ont pas le droit d'aller à l'école. Donc, elles vont rater 1 mois, 3 semaines d'école chaque année. C'est un impact néfaste, en fait, pour leur éducation. Ils terminent par rater l'année, tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait, depuis l'éducation? De tout ce qui est hygiène pour les femmes, les serviettes hygiéniques, en fait, c'est écologique de fabriquer ça avec des feuilles de banane, en fait. Et puis, pour encourager des femmes d'aller à l'école avec ces serviettes, en fait, parce qu'ils n'ont pas cette éducation. Donc, encore pour augmenter le taux d'alphabétisation, et puis pour augmenter le taux d'éducation pour ces femmes. Donc,
Surtout que ça
on ne
coûte, tu me
vise pas
disais que
juste.
ça coûte assez cher en fait ces produits-là.
Oui, ouais.
En plus de la culture, c'est pas évident quoi.
Ouais, et puis exactement, tu as raison. Puis on essaie de investir dans ces machines qui fabriquent, en fait, ces serviettes avec les feuilles de banane. Alors c'est pas juste avec les femmes qu'on travaille, hein, c'est aussi avec des villages qui sont assez éloignés. On peut dire au Tchad, à N'Djamena, c'est une ville, hein, ça reste la capitale de Tchad, mais on essaie de partir dans la région de Kanem, qui est dans le nord, en fait, vers tout ce qui est Sahara. On essaie de mettre en œuvre, de construire des puits là-bas aussi, hein, pour aller, franchement, Tchad, vraiment, la sauf loin, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens qui ont accès à l'eau potable là-bas. Donc, ça aussi, qu'on est impliqué dans ça. Donc, voilà.
Ouais, super, super, super. On arrive bientôt à la fin, Inch'Allah. On va terminer par
Ah
quelques
ouais, le
questions.
temps se passe vite, hein,
Ça
subhanallah.
passe très, très vite. Hein. Quelles sont les compétences qui sont, ou la compétence peut-être, qui est la plus utile pour toi au travail, dans la vie de tous les jours?
Être transparent et puis communiquer. Je pense que je sais pas si je peux répondre à ta question, mais je pense être transparent avec tout ce que tu fais. Pas essayer de travailler dans un type de bulle où personne n'est au courant de ce que tu fais. C'est pas comme ça quand tu marches. T'es pas en mode solo. Tu peux pas sauver le monde en tant qu'une personne. Même subhanallah, le prophète sallam, notre prophète avec les sahaba. T'as vu leur implication, leur contribution financière, Othman radhiyallahu anhu, Abu Bakr radhiyallahu anhu, comment certains tribus ils ont protégé les prophètes sallam pendant
C'est
des périodes de persécution. C'est pas, moi je vais pas faire, c'est pas pareil, mais tu peux pas travailler tout seul, en fait. Et quand tu travailles tout seul, en fait, je peux dire que c'est égoïste, en fait, de faire ça de cette manière. Donc, il faut toujours maintenir un bon niveau de communication avec tout ce que tu fais, encourager des autres. apprécier des autres, en fait, pas juste chercher à, juste pas chercher à s'améliorer, en fait, bien sûr, moi j'ai fait tout, chercher le crédit, on peut dire, mais aussi les gens autour de toi, comment eux ils ont fait l'effort, même si dans leur capacité c'était le meilleur qu'ils ont pu faire, en fait. Et toi, tu dis, bah, c'est pas vraiment un bon boulot, mais toujours essayer d'encourager, hein, quelqu'un autour de toi, soit
Ouais.
avec, au travail ou même à l'associatif, en fait. Donc, communication, transparence, documentation, comme je peux dire, bah, ça fait partie de la communication et transparence. Hein, voilà. Et ouais, c'est difficile de tout mettre résumé. Ouais, voilà.
Ouais. Par moi, de ce que tu m'as raconté, il y a une compétence qui ressort et que je pense qu'elle n'est pas évidente. C'est bah déjà essayer de gérer un peu les équipes, tu vois, créer du dynamisme
Voilà.
et impliquer les gens et
Exactement.
faire en sorte qu'ils soient vraiment impliqués, quoi.
Ouais, tout à fait, exactement. Déléguer les tâches, le rapport avec pas travailler tout seul, en fait, essayer de déléguer, en fait, tu peux pas tout faire. Et
Ouais.
n'essaie pas de tout faire. Qu'est-ce que tu cherches à établir? Bah, pas tout faire. Parce que tu veux dire, moi, c'est que moi qui peux faire le meilleur boulot. Après, quand tu fais ça, en fait, c'est dangereux pour la continuité, pour une association, en fait. Parce qu'il y a que toi qui sais faire tout. Après, il y a les autres qui, comment ils vont, voilà.
Ouais, super. Quelle est la chose que tu préfères dans ton travail?
Mon travail actuel, en fait, j'aime bien interagir, en fait, parler avec mon équipe. C'est ce que j'aime bien. Parce que quand je fais mon travail que moi, je m'ennuie facilement. J'ai besoin de parler et travailler avec les autres, en fait. Ce que j'aime bien, c'est l'interaction, de parler avec eux. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as accompli aujourd'hui? C'est quoi les objectifs aujourd'hui pour cette semaine, pour le mois prochain? Qu'est-ce que tu peux faire pour m'aider avec tel projet qui m'ont assigné? Pareil pour toi. J'aime bien faire ça. Et puis après, le côté individuel, j'aime bien faire des analyses. Moi, je suis
Et quoi?
consultant, l'analyse, des analyses.
Ouais.
Ouais, c'est très important de. Ouais, ça, c'est notre truc. J'ai complètement oublié de mentionner, en fait, d'indiquer ça. Il faut avoir une approche, en fait, je veux dire, analytique, hein, numérique. Parce qu'on doit se baser sur des KPI, des indicateurs, en fait, des indices. Et c'est très
Ouais.
important, pour le succès, de savoir comment mesurer ton succès. Donc, c'est ce que
Le
j'aime bien
progrès,
faire
quoi, la
dans un.
progression. Ouais.
Voilà. Et pareil pour les associations. Il y a combien de gens qui sont venus dans tel événement, combien des membres qui ont fait l'adhésion. Pareil
Ouais.
pour mon travail. Comment mesurer le succès de mon projet, de notre projet, de tel. Voilà, réaliser tel projet.
Ouais. Très bien, très bien, très bien. Quelles sont tes routines préférées?
Déjà, passer assez de temps avec la famille. Rester en contact avec les gens proches, donc c'est des choses que j'essaie de faire, en fait. Et souvent, subhanallah, il peut se faire que j'ai pas le temps de répondre à tous les messages de WhatsApp, mais j'essaie toujours prendre un petit créneau pour répondre à tous mes messages pour des gens qui sont sollicitent, ou il y a des gens qui, moi je sollicite aussi, pareil. Donc ça, c'est très important. Et puis essayer de pas toujours rester à la maison, c'est très important. Et des choses que j'aime bien faire, à part faire des randos de temps en temps, c'est très important pour respirer dans la, tu vois, en plein milieu de la création dans ce moment-là. Les autres choses que
Ouais,
j'aime bien faire,
c'est
c'est
comment
passer le
respirer.
temps avec la famille, ma belle famille, être avec les amis, faire des activités qui sont pas toujours liées à tout ce qui est dans le monde associatif. De temps en temps, juste aller manger avec des amis, de temps en temps, visiter autre, voyager dans un autre pays. Ta routine, en fait, en Suisse, c'est plutôt, essayer de aussi participer aux événements des autres associations que tu fais pas partie. Très important pour avoir des bonnes idées, puis rencontrer du nouveau monde. Ça aussi, j'essaie de faire le plus souvent que possible.
Yes.
Voilà.
Ok, bah nickel, hein. Est-ce que tu as une recommandation de livres, de documentaires ou de n'importe quelle référence qui t'ont particulièrement marqué?
Ouais. Il y a tout ce qui est The 4-Hour Workweek. C'est très
Tim
important parce
Ferriss.
que, ouais, voilà, tout le monde est courant de ça, en fait. Voilà, parce que pour établir une stratégie, une chose que j'ai jamais fait, en fait, bah, j'ai joué avec l'idée, mais c'était l'entrepreneuriat. Je pense que c'est très important qu'on devienne autonome en tant que musulman. Après, pas tout le monde n'est pas fait pour ça, tout le monde ne doit pas faire ça. Mais il faut établir certaines pratiques, voilà. Et puis il y a aussi tout ce qui est Atomic Habits, James Clear.
Ouais.
Donc voilà, pour établir pas mal d'habitudes, en fait, pour voilà, Il y a ça, c'est deux livres qui viennent en tête.
Ouais, bah, écoute, c'est compris. Et enfin, une dernière question. Si un auditeur ou une auditrice a une question, souhaiterait te contacter, comment, c'est quoi le plus facile, c'est quoi le plus simple?
Pour me contacter, ou je veux dire,
Ouais, s'ils ont une question ou quelque chose, ils ont un commentaire. Ouais.
moi, ça dépend si, franchement, mon numéro, il n'y a aucun souci, hein, de là, j'en peux te contacter. J'ai grand plaisir. Après, je ne garantis pas, je peux y répondre toujours. Alors, Inch'Allah, j'essaie toujours de répondre. Et si je n'ai pas le temps, je dis que j'irai vers toi. Sinon, il y a LinkedIn aussi. Je pense que c'est plus facile, c'est mon numéro WhatsApp ou LinkedIn aussi, hein, ça ne me dérange pas du tout. Le deux, soit
Ok.
LinkedIn, soit mon numéro.
Je vais mettre le
LinkedIn, hein.
LinkedIn et
Voilà, c'est mieux LinkedIn,
si quelqu'un me demande en privé et que voilà, je le
pas
donnerai
de souci.
personnellement. Ouais.
Ouais.
Ok, bah écoute, c'est génial, hein. On a fait un bon tour un peu de ce que tu fais. C'était un challenge de te revoir. Mais là, je pense qu'on a vu l'essentiel.
Je te remercie.
Honnêtement, je suis assez impressionné, même vraiment impressionné par la manière dont tu gères les choses et comment tu arrives à gérer les gens. Enfin, c'est même difficile, moi, je trouve, de gérer un projet, tu vois. Donc
Oui.
là, je suis vraiment admiratif. Après, c'est voilà, c'est ta spécialité, on va dire, avec
Alhamdoulilah.
Accenture. Mais ça
Ouais.
reste quand même très, très impressionnant. Très récompense.
Non, jazakallah khair. Puis une dernière chose, hein, puis un petit rappel à tout le monde, en fait, dans tout ce qui est quand tu es impliqué avec tout ça, il faut jamais oublier la priorité, c'est la salat. Donc, même quand tu es au travail, tu enchaînes des réunions ou tu es à l'associatif, il faut jamais oublier de prier à l'heure. C'est très important parce que le baraka, ça vient d'Allah, ce moment-là. Et il faut toujours essayer de se remettre en question pour regarder quelles sont mes compétences. Si j'ai réussi à faire ça, en fait, laisse-moi juste focaliser sur ça. Tu ne peux pas être le meilleur dans tout. Donc, voilà. Donc, je te remercie pour cette initiative. C'est ce que tu fais avec Moussi Maker. Jazakallah khair pour Alhamdoulilah, pour faciliter. Et puis, si je peux être un sabab, un moyen de encourager et puis motiver des autres, Inch'Allah, et qu'Allah te récompense pour tout ce que tu fais. Inch'Allah, j'ai hâte de voir les futurs, en fait, participants et puis voilà, qui vont faire partie de ton podcast, Inch'Allah.
Je te remercie, Adnan. J'espère te rencontrer un de ces quatre en Suisse ou autre part si tu voyages encore.
Inch'Allah.
Ou si tu passes à
Inch'Allah.
Singapour, ce sera avec plaisir qu'on t'accueille.
Avec grand
Ouais.
plaisir, avec grand plaisir.
Et puis voilà, hein. Je te dis à bientôt, Inch'Allah, et je te souhaite une
À
très bonne. Toi,
bientôt.
c'est très tôt chez toi, donc très bonne journée.
Ouais. Inch'Allah. Jazakallah khair et puis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci
Bon,
encore.
alaykoum salam, rahmatoullah. Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à trois personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.